Hey, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire des rois de France, co-animé avec notre invité Maxime. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au roi Louis IX, bien connu sous le nom de Saint-Louis. On va revenir ensemble sur deux grands moments de son règne, d'abord sur la transformation et la modernisation du royaume qu'il amorce, puis sur les deux croisades auxquelles il prend part. Allez, c'est parti!
Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, né en 1214 et mort en 1270, est le 9e roi de la dynastie capétienne directe. Petit-fils de Philippe Auguste et fils de Louis VIII, il est considéré comme l'un des trois grands rois de la dynastie capétienne, avec son grand-père et son petit-fils Philippe IV. Si son règne se caractérise par un ensemble de réussites sur le plan économique, architectural, militaire ou encore administratif, Louis IX rentre dans l'imaginaire collectif comme étant un roi très pieux, ce qui lui vaudra d'être canonisé par le pape Boniface VIII en 1297, soit 27 ans après sa mort, à l'initiative de son petit-fils Philippe IV. Mais avant cela, revenons un peu en arrière. L'un des aspects les plus importants du règne de Louis IX est probablement l'impact global qu'il aura sur le royaume de France via de nombreuses modernisations. Considéré par de nombreux historiens comme un roi réformateur, il renouvelle de nombreux principes établis partiellement dans le royaume et en instigue également de nouveaux. Pour illustrer chacune de ces réformes, Saint-Louis va par exemple renouveler la règle de la quarantaine du roi. Cette loi vise à entretenir une forme de stabilité dans les relations infra-étatiques en ce qu'elle instaure un délai de 40 jours permettant d'éviter des guerres privées entre deux familles au sein du royaume. Cette loi permet de garantir une forme de dialogue et de réflexion avant de se lancer dans une guerre qui mettrait à mal une unité nationale débutée sous le règne de Philippe Auguste. De même, Saint-Louis va mettre en place de nombreux principes juridiques fondateurs dont certains subsistent encore aujourd'hui. Louis IX va par exemple mettre en place la présomption d'innocence, toujours d'actualité, ou encore interdire la vengeance privée. Tous ces nouveaux principes juridiques permettront de favoriser une véritable institution juridique au sein du royaume, qui perdurera jusqu'à nos jours. Rappelons que jusqu'au XIIe siècle environ, les affaires juridiques n'étaient pas encore une affaire à la charge de l'État. Les vengeances privées étaient encore monnaie courante et bien qu'elles ne cessent pas entièrement sous le règne de Saint-Louis, la mise en place de ces mesures servent à réguler drastiquement les conflits. La modernisation orchestrée par Saint-Louis dans le royaume passe également par une dimension architecturale. En effet, ce dernier, en tant que roi réformateur, organisera de nombreuses modernisations, ainsi que de nombreuses constructions qui modifieront le paysage du royaume. Comme Louis IX est un roi particulièrement croyant, c'est tout naturellement qu'il va se lancer dans la construction de nombreuses cathédrales, comme la cathédrale d'Auxerre, de Chartres, de Reims, d'Amiens, ou encore la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris. Bien que son rôle direct dans la construction de ces édifices ne soit pas établi, il n'en reste pas moins le point de départ en ce qu'il autorise les financements dans ces constructions. L'historien Robert Branner note par ailleurs que sous Louis IX, la ville de Paris devient un réel centre artistique et culturel via ses monuments, mais aussi par les différents travaux manuels et intellectuels développés par le roi. Par exemple, le développement de l'université de Paris, en favorisant l'instruction des plus pauvres, participe à faire de la capitale une ville de savoir et de culture de niveau européen. Il faut également évoquer dans la modernisation du royaume le fait que Saint-Louis a œuvré à développer la foi catholique du royaume de France. De par sa mère, Blanche de Castille, Louis IX a reçu une éducation très pieuse et joue donc un rôle majeur dans le développement du catholicisme en France. Pourtant, il va parfois s'opposer au choix du pape, comme lorsqu'il interdit la pratique des ordalies. L'ordalie est une forme de procès religieux durant lequel un sujet accusé doit subir de lourdes épreuves physiques afin de prouver son innocence. Si cette épreuve est fortement encouragée par le pape et les clercs du royaume, le roi Louis IX, lui, s'y oppose. En réalité, ces épreuves ne prouvaient bien souvent rien du tout, car les supplices étaient tels que les accusés succombaient souvent, qu'ils soient coupables ou non. Conscient que ces supplices étaient inutiles et barbares, le roi donna un édit qui les rendront interdites dans tout le royaume. Ainsi, par une modernisation architecturale, administrative et religieuse, le roi Saint-Louis va participer à faire basculer le royaume de France dans une dimension nouvelle, celle de la puissance culturelle et militaire.
Bon, vous l'avez compris, Louis IX a largement œuvré pour le développement du royaume de France qui prend petit à petit l'allure de la France d'aujourd'hui. Mais au-delà de son pays, il est un fervent défenseur de la chrétienté qu'il ne va sûrement pas hésiter à défendre en Orient durant la 7e et la 8e croisade. L'idée de partir en croisade vient à l'esprit de Saint-Louis au moment où celui-ci frôle de justesse la mort. En décembre 1244, alors âgé de 30 ans, Louis tombe gravement malade, probablement d'une dysenterie. Alors que tout le monde, le roi y compris, pense que la fin est proche, il guérit quasi miraculeusement quelques semaines plus tard. Louis, qui avait perdu l'usage de la parole, la retrouve et fait le vœu de partir en croisade. Sa mère, Blanche de Castille et son entourage, tentent de l'en dissuader, mais rien n'y fait. Louis IX est bien déterminé. Au nom de la chrétienté, il veut partir se battre en Terre Sainte. Mais avant de se plonger au cœur de la 7e croisade amorcée par Louis IX, revenons un peu sur le contexte en Orient. Pour les chrétiens, la 6e croisade est un relatif succès. Grâce à Frédéric II, à ce moment à la tête du Saint-Empire romain germanique, les croisés ont repris Jérusalem. Néanmoins, la donne est un peu différente car il s'agit d'un succès diplomatique et non militaire. Détaillons un peu tout ça. En face de Frédéric II se dressait la famille des Ayoubides, dont l'alliance entre les différents frères avait mis en déroute les soldats chrétiens lors de la 5e croisade. Or là, l'entente familiale n'est plus de mise et une guerre civile éclate alors. Frédéric II tente d'interférer en nouant des alliances avec l'un de ses frères, Al-Hakamil. Mais cette immersion dans les affaires familiales n'est pas très bien vue, surtout que les Ayoubides sont davantage préoccupés par leurs problèmes intestinaux que par la menace des croisés. Ainsi, le 18 février 1229, un accord est conclu entre Al-Kamil et Frédéric II. Ce dernier s'engage à la neutralité dans les affaires Ayoubides et Al-Kamil cède Jérusalem aux croisés. C'est ainsi que la ville sainte passe aux mains des chrétiens. Mais le seul problème est que Frédéric II ne prend pas soin de consolider la paix dans la ville et rapidement, l'anarchie s'installe. Ce dernier laisse la ville aux mains de son fils Conrad, désormais roi de Jérusalem mais qui n'y a jamais mis un pied. Surtout, les barons de la ville nouent des alliances avec les différents groupes militaro-religieux comme les bien connus Templiers ou encore les Hospitaliers. Bon, en gros, c'est le bazar et c'est dans ce contexte que Louis IX va faire le vœu de partir en croisade. Et là, on arrive à la 7e. En 1248, Louis IX, remis sur pied, est plus déterminé que jamais. Il se rend à Saint-Denis pour récupérer l'oriflamme, l'étendard royal en temps de guerre. Accompagné d'une énorme quantité de fidèles, il marche pieds nus vers l'abbaye royale de Saint-Antoine-des-Champs pour demander aux religieuses de prier pour lui. Il nomme sa mère régente officielle en son absence. Sur le chemin, il rencontre le pape Innocent IV à Lyon qui lui promet de protéger la France des Anglais pendant son périple en Terre Sainte. À partir de là, tout est prêt, il n'y a plus qu'à partir. Le 25 août 1248, le futur Saint-Louis embarque à Aigues-Mortes avec une poignée de nobles français et des chevaliers. Même si les chiffres sont contestés, on estime que le roi serait parti avec environ 25 000 hommes. Après un long passage à Chypre qui a permis au roi d'affiner sa stratégie, les croisés arrivent en Égypte, à Damiette, au début du mois de juin de l'année 1248. La ville est rapidement prise par les hommes de Louis IX. Prochaine étape, le Caire. Mais petit problème, les soldats chrétiens doivent composer avec les attaques incessantes des Égyptiens et la crue du Nil qui les contraint à s'arrêter devant le fleuve. La route vers la capitale égyptienne est loin d'être de tout repos. Le 21 décembre 1249, l'armée chrétienne arrive à proximité de Mansoura, ville longeant le Nil hautement stratégique. Malheureusement, les hommes de Louis sont un peu désorganisés, en particulier quand l'avant-garde fonce sur la ville sans attendre le feu vert. En place, les musulmans la réduisent en poussière. La suite n'est guère plus glorieuse et la défaite est cinglante pour les croisés. Saint-Louis est même capturé le 8 février 1250. Un mois plus tard, il est libéré et l'armée prend peu de temps après la direction de Saint-Jean d'Acre en Terre Sainte qu'elle rejoint le 13 mai 1250. Même s'il n'est pas le plus aimé, Louis IX incarne une source d'espoir pour les chrétiens du Levant. Et pour le roi, il s'agit d'utiliser non pas l'appareil militaire, mais une arme encore plus puissante, la diplomatie. Mais là encore, Louis IX s'aventure sur un terrain glissant car même du côté musulman, les dissensions entre les émirats sont importantes. Mais le roi ne s'arrête pas à quelques manœuvres de politique extérieure. Il fait renforcer les défenses de la ville de Jérusalem, laissée dans un piètre état depuis Frédéric II. Il fait de même dans plusieurs autres villes et rapidement, cela va payer car quelques raids arabes, notamment à Jaffa, seront stoppés. Louis IX est plein d'ambition en Terre Sainte, mais la réalité va le rattraper. Le 27 novembre 1252, sa mère, qui assurait la régence, décède. Le jeune Louis n'a guère d'autre choix que de rentrer dans son royaume. Il quitte Saint-Jean d'Acre en avril 1254, direction la France. Mais pour Louis IX, ce n'est que partie remise. Malgré de relatifs succès, Louis IX voit dans la 7ème croisade un échec. Un échec qu'il considère comme une punition divine. Un échec qui ne peut pas rester comme tel. En 1266, il annonce secrètement au pape Clément IV son intention de repartir en croisade. Depuis 1254 et la fin de la 7ème croisade, un nouvel arrivant est venu bouleverser l'échiquier. Il s'agit des Mongols qui commencent à menacer certaines places conquises par les chrétiens en Orient. Et ça, Louis IX le sait très bien, il est parfaitement au courant de la situation en Orient. Pour cette 8ème croisade, le roi de France part avec encore plus d'ambition. La préparation est similaire, Louis reprend l'oriflamme et embarque le 1er juillet 1270 direction Tunis. A vrai dire, on ne sait pas pourquoi Louis IX a voulu commencer par Tunis, mais il y a fort à parier que son frère soit derrière tout cela. Toujours est-il que le roi et ses hommes arrivent à Tunis le 18 juillet 1270. Louis, qui pensait que le sultan de la ville allait se convertir, fait envoyer ses hommes à Carthage pour attendre les renforts. Cette dernière tombe en peu de temps. Mais petit problème, les projets de Louis vont être écourtés, et ce, pour l'éternité. L'armée subit une épidémie de dysenterie ou de typhus qui fut fatale au roi. Après plus de 43 années de règne, le roi Louis IX s'éteint le 25 août 1270 à Carthage, à l'âge de 56 ans. Cependant, la légende du roi Louis IX est bien loin de s'éteindre. Au contraire, après sa mort, il fait l'objet d'une vénération incommensurable de la part de son entourage et de ses sujets. D'ailleurs, il sera canonisé en 1297 par le pape Boniface VIII. Louis IX devient Saint Louis. Cette canonisation intervient sous le règne d'un certain Philippe IV, dit le Bel. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, j'espère que ce 4ème épisode de notre série sur les rois de France dédié à Louis IX vous a plu. En tout cas, pour nous, ce fut un immense plaisir de faire ce beau voyage avec vous. Je vous invite, comme d'habitude, à nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission À travers l'histoire podcast ou sur Facebook À travers l'histoire tout court. Vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout, envoyez-nous vos commentaires, vos retours. Nous y répondrons avec un grand plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage À travers l'histoire.